c'était avant tout un homme du XVIIIe siècle. Il en avait les idées, les tours littéraires, celui de la Déclamation et de Rousseau, celui de la Maxime et de Champfort. Dans ses monologues de Sainte-Hélène, que retrouve-t-on toujours? L'homme qui avait eu 20 ans en 1789. Formé sous l'Ancien Régime, il a reconnu lui-même ce qu'il devait à ceux qu'il avait instruits. Il a parlé avec gratitude de ses maîtres de l'école militaire. Il continue, comme les autres, beaucoup plus de choses qu'il n'en apporte de nouvelles. Il est de son temps à un point qui étonne parfois, ainsi par son culte de Frédéric II. Le héros qui l'avait précédé et qui l'a effacé dans l'imagination des Européens. La Révolution dont il parle le langage et partage la philosophie, il l'a traversée en soldat, qui a sa carrière à faire. Prompt à saisir des occasions qu'elle lui offre, il a servi les partis sans être d'aucun. Le 10 août, la résignation de Louis XVI l'indigne, parce qu'il a le don du commandement et le sens de l'autorité. L'instinct de la politique, le goût du risque, une confiance grandissante dans son étoile, une aptitude remarquable à comprendre les hommes et leurs besoins, à trouver les paroles et les actes qu'exige chaque situation, tels furent les éléments de sa réussite. Et pourquoi cette fortune extraordinaire s'est-elle terminée par une catastrophe? Parce que Napoléon Bonaparte était prisonnier de la plus lourde partie de l'héritage révolutionnaire. Prisonnier de la guerre de 1792, prisonnier des conquêtes. Avec la plupart de ses contemporains, il n'oubliait qu'une chose. L'Angleterre n'avait jamais permis, elle ne permettrait jamais que les Français fussent maîtres des Pays-Bas. Pour les enchasser, aucun effort ne lui serait trop coûteux. À cette loi, vieille de plusieurs siècles, la Révolution n'avait rien changé, et l'avènement de Bonaparte ne changeait rien. Tout fut facile d'abord. La France se jetait dans les bras de l'homme extraordinaire qui semblait deviner ses désirs. Les circonstances conspiraient avec son prestige et son adresse pour lui donner sans partage le pouvoir. Selon la tradition révolutionnaire, le Directoire s'était épuré lui-même. Et ayant eu besoin du nom de Bonaparte et de son épée pour cette épuration, Sieyès et Roger Ducos lui avaient fait place parmi eux. De 5 directeurs, on passait à 3 consuls. Tout de suite, le général Bonaparte fut le premier, le seul. Il gouverna, rassurant les révolutionnaires nantis et la masse paisible de la population. Il effaçait les restes du jacobinisme, l'impôt forcé progressif et l'odieuse foi des otages. Il rendait les églises au culte, et pacifier la Vendée par l'arrêt des persécutions religieuses. Il annonçait la fin de l'atroce misère due aux assignats, misère que le Directoire, malgré ses promesses, avait été impuissant à guérir. La Révolution, née de la peur du déficit, avait ouvert un gouffre. La mort du papier-monnaie n'avait pas été un remède. On comprenait pour la première fois que la réorganisation des finances et le retour à la prospérité dépendait d'une réorganisation politique et d'un gouvernement fort. Les finances, sous l'Ancien Régime, n'avaient été embarrassées que par la résistance des intérêts particuliers défendus par les parlements. Elles avaient été ruinées par la démagogie révolutionnaire. Il fallait une autorité ferme pour les rétablir. Bonaparte, sans tarder, appela auprès de lui un ancien fonctionnaire de la monarchie, Godin de Gaète, qui fonda les contributions directes sur le modèle des 20e et rétablit sur le modèle des aides les impôts indirects abolis par la Révolution. Sans le dire, on reconnaissait que tout n'avait pas été si mauvais sous l'Ancien Régime et que le plus grand mal était l'anarchie. Cependant, le gouvernement qui s'était formé au lendemain du 18 Brumaire était provisoire. Selon l'usage, une constitution, une de plus, devait être donné à la République. Le général Bonaparte attendait patiemment le chef-d'œuvre que préparait Sieyès. Il se réservait d'y apporter les corrections nécessaires. Sieyès médita. Il conçut un système où l'élection passait par une suite de tamis, un système qui n'était ni la monarchie, ni la République, ni la démocratie, ni l'aristocratie, ni